France Culture. France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
Alors que la 28e édition du Printemps des Poètes commencera en mars prochain, la poésie est-elle devenue un genre minoritaire dans le paysage de la littérature contemporaine, comme l'affirmait Michel Houellebecq au début des années 2000 ? Tandis que les poèmes d'Aragon étaient jadis popularisés auprès du grand public, assiste-t-on aujourd'hui à l'éclipse progressive de l'écriture versifiée ? Ou bien, au contraire, à sa résurrection, certes discrète, mais d'autant plus flamboyante ? Sommes-nous, par exemple, les témoins, les acteurs, d'une éclosion de lyrisme sur les réseaux sociaux ? Se pourrait-il enfin que le rap et la chanson populaire aient pris le relais des trouvères de jadis ? Toutes ces questions éminemment actuelles reviennent au fond à poser le problème éternel du lyrisme. Et si la poésie visait avant tout à instaurer un autre rapport au monde ? Poésie, un art à la recherche d'un nouveau souffle ? J'aurai le plaisir d'en débattre sans préjugés aux côtés de trois grands amoureux de la poésie, Thomas Schlesser, Pauline Picot et Philippe Torreton.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Bonjour Pauline Picot.
Bonjour.
Vous êtes poétesse, autrice dramatique et performeuse. Vous avez publié « Permettez-moi de palpiter » aux éditions Vroom et vous faites partie des 10 jeunes poètes invités par France Culture dans la nouvelle série de l'émission « L'Instant Poésie ». Et à l'occasion du Printemps des Poètes, cette série « Nouveau souffle » est diffusée à l'antenne du 2 au 27 mars et disponible dès aujourd'hui sur le site de France Culture et l'application Radio France. Bonjour Philippe Torreton.
Bonjour.
Vous êtes comédien. Et vous avez publié, entre autres, Veillée aux éditions Calman-Lévy, et également une anthologie de la poésie française. Et on peut aussi, bien sûr, vous retrouver sur les planches du Théâtre Antoine, avec la pièce « Le cercle des poètes disparus » jusqu'au 12 avril. Bonjour Thomas Schlesser.
Bonjour.
Vous êtes historien de l'art, écrivain, directeur de la Fondation Hartung Berman et professeur à l'École Polytechnique. Et après le succès mondial de votre dernier livre, Les yeux de Mona, sur l'histoire de l'art, vous publiez Le chat du jardinier, sur la poésie, disons, aux éditions Albin Michel. Thomas Schlesser, peut-être je voulais commencer avec vous en vous posant la question de savoir ce qui vous a amené à écrire ce roman-là sur la poésie. Votre texte précédent, Les yeux de Mona, était une œuvre de transmission de l'histoire de l'art. Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu faire ce même travail d'initiation pour la poésie ?
Un ressort très personnel. Moi, je faisais partie des mauvais élèves, des cancres de ce que Jacques Prévert désigne comme ceux qui font non avec la tête, oui avec le cœur, oui à ceux qu'il aime, non au professeur, les cancres. Et la poésie m'a sauvé pendant mes jeunes années, quand j'étais en quatrième, troisième. Non pas que je sois devenu un fort en thème et quelqu'un de très efficace quand il s'agissait de faire de l'analyse de texte, mais la parole libre, l'élan heureux, le souffle de révolte, le lyrisme à la fois exalté et désaxé de la poésie m'a permis de trouver une voie. Et je suis très heureux d'être avec Philippe Torreton parce que il me semble que la poésie, c'est quelque chose, c'est un souffle oral. Et moi, quand j'étais gamin, je la disais avec très peu de talent, mais tout seul dans ma chambre le mercredi. J'y comprenais pas grand-chose à Guillaume Apollinaire, mais je le disais et ça me faisait du bien.
Philippe Torreton, dans votre préface, dans la préface de votre anthologie de la poésie, vous définissez la poésie comme une rencontre avec l'intimité d'un auteur. Et vous soulevez un paradoxe, c'est que l'initiation telle que nous la vivons toutes et tous à la poésie passe avant tout par l'école. Et vous dites l'école a fait de la poésie un projet pédagogique et c'est la pire chose qui pouvait lui arriver et nous arriver. Faire de l'intimité d'un homme ou d'une femme un devoir, une corvée. Quelle est cette opposition entre ces deux rapports, ces deux initiations à la poésie ?
C'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a un élan, il y a un cri, il y a une vigilance, il y a une envie de témoigner, de dire quelque chose à quelqu'un. Et parfois, hein, méfions-nous des généralités, mais je crois que le structuralisme, enfin la façon de décortiquer comme ça les poèmes, peuvent faire penser que c'est une recette, qu'il y a il suffit d'appliquer telle règle, telle autre, et ça devient un objet finalement d'étude, comme on pourrait démonter une magnifique voiture, et on se retrouve avec toutes les pièces étalées, comme ça. Et ben moi, ça m'a fait froid dans le dos, en fait. Et je suis toujours attaché à ce que dit quelqu'un. Après, la manière dont il s'y prend, on peut en discuter, on peut s'amuser avec ça. Mais d'abord, intéressons-nous à ce que ça dit. Et je sais pas si c'est mon parcours qui fait que c'est comme ça que j'ai abordé la poésie, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a à me dire. J'ai le sentiment que le bon professeur est celui qui vous fait croire ou comprendre que Baudelaire a écrit ça pour vous, pas pour les autres, pour vous. C'est ce que j'ai rajouté comme phrase dans le cercle des poètes disparus. À un moment donné, je me suis permis de rajouter cette phrase. La littérature est un chemin de connaissance de soi grâce à l'autre. C'est parce que tu as écrit ça que je vais me comprendre. Et ça, merci beaucoup.
Pauline Picot, cette notion de l'incarnation de la figure du poète ou de la poétesse et de l'écriture poétique, et je crois aussi au cœur de votre travail, aussi bien à l'écrit, permettez-moi de palpiter votre image, ne cesse de grossir à mesure qu'on avance dans le recueil sur la page de gauche, et aussi à travers la performance. Est-ce que la performance est l'avenir ou le présent de la poésie contemporaine ?
C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une génération de poètes et poétesses qui sont très attachés à la mise en voix de leurs textes, notamment pour se tenir face justement à quelqu'un et dire « je te parle à toi », comme le disait Philippe. Sauf que la différence avec Baudelaire, c'est que nous sommes vivants et nous avons envie de le faire savoir. On a envie de s'incarner, on a envie d'être debout, dans nos chaussures, face à quelqu'un qui nous écoute et qui peut-être vibre à notre unisson ou pas. Et c'est aussi intéressant quand ça ne vibre pas à l'unisson.
Alors, puisque vous parlez de vibrer à l'unisson, je vous propose d'écouter le poète Teddy Chawa dans un extrait de la nouvelle série intitulée Nouveau souffle de l'émission L'Instant Poésie.
Je m'appelle Teddy Chawa. Au lycée, j'ai commencé à écrire des textes de rap avec des amis. Évidemment, il y avait la recherche de la rime qui touche, qui fait mouche, la recherche de la musicalité, du rythme, du flow, comme on dit dans le rap, etc. Et dans ma construction de jeune homme noir, voilà, j'ai commencé à écrire des textes qui finalement n'étaient plus du tout du rap. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est de la poésie.
Extrêmement intéressant, cette idée du rap qui prendrait le relais de la poésie classique, scolaire, académique. Notre émission s'appelle « Sans préjugés ». On essaye de partir de préjugés, de les déconstruire, de les décortiquer. Peut-être que le préjugé le plus courant sur la place de la poésie aujourd'hui, c'est de dire finalement « la poésie contemporaine est invisibilisée, elle est devenue minoritaire, je citais Michel Houellebecq, elle traverserait une crise ». Thomas Schlesser, comment vous situeriez-vous par rapport à cette idée-là ?
Alors, je dirais que la poésie en France tient une place un peu paradoxale. Pourquoi ? Parce que la France a été, comme d'autres pays, on peut citer l'Italie par exemple, l'Allemagne bien sûr, un immense pays de poésie. Et il est vrai qu'aujourd'hui, comparativement avec d'autres scènes, dans certains pays d'Europe centrale ou d'Europe de l'Est, aux États-Unis, la France semble un peu en sourdine de ce point de vue-là. En fait, elle ne l'est pas, parce qu'il y a une scène poétique qui est très active, mais il lui manque quelque chose, et on ne le souligne pas suffisamment. Il manque un auditoire. En fait, il y a des créateurs et des créatrices de poésie, et qui viennent d'innombrables origines. En revanche, les écoutilles ne sont pas suffisamment ouvertes. La curiosité n'est pas suffisamment affûtée. Et je suis très sensible, du coup, à ce que vient de dire Pauline Picot, au fait que Philippe Torreton soit sur scène avec le Cercle des Poètes Disparus. Je cherche moi-même à militer avec le chat du jardinier pour qu'il y ait une initiation plus ample, afin que tout le monde puisse se dire « la poésie, c'est aussi fait pour moi en termes d'audition, de lecture, d'attention, et pas seulement de création. » Et ça, je crois que c'est un élément absolument décisif. Il faut des récepteurs en plus des émetteurs.
C'est très intéressant ce que vous dites, Thomas Schlesser, parce que normalement, vous avez employé le mot « militer ». Normalement, l'engagement artistique est un engagement au service de causes qui sont extérieures à l'art, à la littérature, à la poésie. Là, il s'agirait presque d'un engagement immanent, où la poésie a pour but de se défendre elle-même. Philippe Torreton, est-ce que le Cercle des Poètes Disparus, la pièce, le film que tout le monde a vu, mais la pièce aussi, a pour but de rendre populaire un art qu'on peut se représenter comme élitiste ?
C'est peut-être le but. En tout cas, ça réveille une envie incroyable. Parce que le succès de cette production théâtrale, qui dure depuis... C'est la troisième saison maintenant. Je suis le troisième Keating. Et ne se dément pas. Et des jeunes viennent voir cette pièce qui n'était pas née, loin de là, quand le film est sorti. Donc, il y a un rêve de Keating de rencontrer ça, d'être pris par la main, d'être poussé hors de soi, hors des conventions, d'arracher les préfaces ou d'en faire des post-fastes et de se dire, allez, je vais raisonner, tenter la grande aventure folle de penser par moi-même et de lire tout seul, dans mon coin, Shakespeare ou d'autres, Whitman et autres. Et ça a été le but, moi, de mon anthologie. Je ne suis pas un universitaire. Donc et d'autres ont fait ça tellement bien, de commenter la poésie. Et donc, je n'allais pas m'aventurer là-dessus. Je voulais faire une anthologie de plaisir et de dire, si tu n'aimes pas, ce n'est pas grave, tourne la page, il y en aura d'autres. Moi, c'est ce qui est arrivé. Je n'aimais pas Lamartine. Vous allez dire, oh là là, quel imbécile. Et en faisant une anthologie, je me suis dit, je ne peux pas faire l'économie de Lamartine. Donc, je m'y suis remis. Et l'immatérialité de Dieu m'a saisi, le désert ou l'immatériel. Et ça m'a... Je me suis dit, mais quelle beauté. Et après, alors évidemment, j'aime beaucoup Rimbaud, et j'ai lu que Rimbaud plaçait Lamartine dans les voyants. Oui. Et je me dis, ah, je suis content d'avoir reconnecté avec Lamartine.
Oui, voilà. Si je peux ajouter un tout petit mot là-dessus rapidement, c'est vrai que Lamartine fait partie de ces poètes qui sont très vite, qui pâtissent d'un préjugé ringard, alors que ce sont des poètes, pas comme Lamartine, des vers extraordinaires, d'une simplicité fabuleuse. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est incroyable, tellement c'est efficace et explosif. C'est l'occasion aussi d'ajouter que Lamartine, comme bien d'autres poètes, ont des vies, mais aventureuses, des vies d'engagement, des vies politiques. Lamartine ayant été un homme politique très important dans la conquête de la République, et notamment dans la Révolution de 1848.
Mais merci de dire ça, parce qu'on est trois, alors, et je ne sais pas ce que va en dire Pauline Picot, être au fan club de Lamartine, qui a souffert de ce mot de Flaubert, le lyrisme poitrinaire.
Oui.
C'était un révolutionnaire de la poésie, et avec aussi un combat, et Pauline Picot, ça fait la transition avec la question que je voulais vous poser, de vouloir rendre la poésie et la littérature accessibles, simples, un lyrisme à portée de toutes et tous. Pauline Picot, il y a un phénomène qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que la poésie trouve un nouvel essor sur les réseaux sociaux. Alors que de prime abord, on pourrait se dire que les écrans sont contraires aux livres, le ceci tuera cela, et que les écrans vont remplacer l'écriture. C'est presque l'inverse, ce à quoi on assiste, non ?
Je dirais que tout existe un petit peu, tout coexiste. Il y a dans les réseaux sociaux pas forcément une panacée universelle, mais en tout cas une forme de solution ou de remède à la durée éditoriale. Durée éditoriale qu'il faut par ailleurs préserver, qui est très importante. Il est très important de respecter ce temps, cette maturation, cette jachère de l'édition. Et moi, je suis aussi une autrice publiée en théâtre et en poésie, donc j'y tiens vraiment. Néanmoins, ce que permettent les réseaux sociaux, pardon, c'est cette éclosion, cette transmission sans médiation de soi à l'autre. Alors on pourrait, l'écueil serait de dire que ce serait de soi à soi, publier pour se faire plaisir, écrire son petit poème pour le voir exister sur Internet. Mais il me semble, en tout cas pour ma part, que lorsque je publie un poème sur les réseaux sociaux, c'est vraiment pour essayer de toucher quelqu'un immédiatement, justement, sans médiation et sans peut-être quelque chose d'intimidant qui pourrait y avoir parfois dans l'objet livre. Donc il me semble qu'il faut être partout.
Toucher quelqu'un immédiatement et sans médiation, ceci nous invite à essayer de définir, si tant est que cela soit possible, la différence, la singularité de l'écriture poétique.
France Culture, sans préjugés. Nathan Devers.
À 18 ans, là, j'ai commencé à lire. Pour moi, quoi. Il y a eu Rimbaud. Et puis la suite, c'est-à-dire des poètes, quoi. À partir de 18 ans, c'était une révélation. Et puis, je me suis limité, alors... oui, vraiment, vraiment trop, même. Hein. Je suis critiquable pour ça, parce que... Vraiment, je lisais plus que ça, quoi. Alors, j'ai pris tout ce qu'on m'indiquait, mais aussi beaucoup qui m'étaient indiqués par le nez, quoi. J'en ai découvert beaucoup de moi-même, on m'a pratiquement pas guidé. Et puis je suis arrivé à Chartres, tout simplement, puis j'y suis resté, parce qu'on ne va pas plus loin. J'ai toutes ces œuvres, pratiquement, toutes celles qui ont été publiées en tout cas, et puis j'épluche. J'y vais à fond parce que Parce que c'est essentiel, quoi.
Et est-ce que vous croyez qu'on peut rentrer dans Chartres d'emblée?
Ah ben non. Puis pour y rester, il faut être un peu... Enfin, il faut vraiment avoir plus que ça à lire, quoi.
Archive géniale, nous entendions un jeune berger de Camargue raconter son amour pour René Char, interrogé par Michel Polac en 1967. Thomas Schlesser, on l'a retrouvé, le jardinier, finalement, parce que cette archive m'a évidemment fait penser à votre livre, et finalement à la question de quelqu'un qui, initialement, n'a pas de pratique de la poésie, et qui va être initié à la poésie par une relation interhumaine avec une professeure qui, elle, est presque enfermée initialement dans sa passion et qui a besoin de la transmettre pour la vivre davantage.
C'est exactement ça, c'est le sens du roman, c'est le sens du chat du jardinier. Chez cette professeure qui s'appelle Tali, l'idée consiste à faire dire à ce jardinier, Louis, la poésie à la nature pour, d'une certaine manière, participer au tissu du monde par le souffle poétique. Vous savez, Nathan, les origines de la poésie, ce sont des origines bucoliques. On l'oublie trop souvent, mais c'est très touchant d'avoir un berger qui parle de René Char, René Char qui lui-même est un homme de la terre. Parce que si on remonte aux origines mythiques, nous avons Orphée, le berger Orphée avec sa lyre, qui chante auprès de la nature et qui a les animaux eux-mêmes qui sont aimantés par la beauté des paroles qu'il murmure, qu'il profère. Donc dans cette définition impossible de la parole poétique, je crois que de se rappeler la modestie, l'humilité, au sens quasiment étymologique du terme, de ces sources, c'est très salutaire.
Alors, dans la définition impossible ou difficile de la poésie, il y a peut-être un deuxième préjugé, ou en tout cas une idée qui revient souvent, à savoir que la poésie, à la différence de la prose, ferait un usage fondamentalement inutile, non fonctionnel du langage. Pauline Picot, est-ce que vous partageriez cette définition-là ?
Je dirais que la poésie ne s'oppose pas fondamentalement à la prose. On sait qu'il y a des proses particulièrement poétiques. La poésie, c'est, il me semble, prendre le monde de biais, le regarder autrement ou en clignant de l'œil ou en fronçant les yeux pour le voir autrement. Et ça, Zola le disait dans Le naturalisme au théâtre, la poésie coule à plein bord dans tout ce qui existe, d'autant plus large qu'elle est plus vivante. Et Zola n'était pas un poète en vers. Et voilà, il parlait de la poésie de la viande crue, de la poésie des gens qu'on côtoie dans la rue. Donc de là à dire que tout est poétique, non, peut-être pas. Mais il me semble quand même que voilà, c'est une question de biais, de regard. Ça, après, ça se travaille dans la langue, mais il me semble autant en prose qu'en vers.
Alors Philippe Torreton, dans la préface de votre anthologie, vous revenez aussi sur cette idée des origines bucoliques, je ne sais pas, mais en tout cas d'un autre rapport à la nature de la poésie. Je suis certain que dans ce fin fond des âges perdus, l'un d'entre nous a dû grogner différemment devant un coucher de soleil, une tempête, une éclipse, un feu ou le miroitement de l'eau entre deux fougères arborescentes. Je suis persuadé que l'origine de la poésie se cache dans ses sensations devant l'insondable beauté et l'étrangeté du monde naturel. Il y a cette intimité profonde qui précède l'écriture entre la nature et l'intuition poétique.
J'en suis totalement convaincu. Surtout depuis en plus que j'ai fait un spectacle qui s'appelait Nous y voilà, où je m'amusais à mettre en regard des textes de poètes d'hier et d'aujourd'hui, comme on dit, et avec des paroles d'Amérindiens, des paroles d'Inuits, qui racontent des légendes d'autrefois. Et c'est incroyable. Le rapport à la nature est exactement le même. C'est-à-dire que le poète ne se vit pas au-dessus de la nature. Il est imprégné de ça, il est subjugué de ça. Et l'Amérindien, l'Inuit aussi, pareil. Il y a même cette légende inuite où il dit que au début des temps, l'homme pouvait être un animal et l'animal pouvait être un homme, suivant qu'on le désirait ou pas, et que les mots étaient magie, qu'il suffisait de penser à quelque chose pour que cette chose devienne réalité. Et la magie des mots, c'est ce que dit aussi Keating dans la pièce. Mais c'est incroyable comment tout est lié. Je crois qu'il y a une sorte d'intuition féroce et étincelante qui existe dans la poésie et qui existait dans les premiers temps de l'humanité. Parce que, regardez, par exemple, l'autre jour, j'attendais ma fille à la sortie du lycée, et il y avait un arc-en-ciel qui tapait sur la place, sur la colonne de la place de la Bastille, le petit bonhomme doré en haut, là. Eh bien, toute la rue regardait ça. Pourtant, on est au 21e siècle. On a les explications de tout. On sait très bien que c'est la diffraction de la lumière, etc. Hop, ça fait des couleurs. Et... Donc, on est au courant, on est au taquet. Et tout le monde, toute la rue, regardez ça. Parce que c'est beau. Et je me dis, mais mettons-nous 150 000 ans avant. On n'avait pas Internet, on n'avait pas Hubert Reeves qui est passé par là. On n'avait pas toutes ces explications. Comment voulez-vous ne pas être subjugué, parfois en bien comme en mal, en crainte comme en émerveillement, devant la beauté du monde, devant c'est quoi une marée, pourquoi l'eau monte, pourquoi elle descend, pourquoi il y a des éclipses de lune, de soleil, pourquoi tout d'un coup la foudre tombe, enfin du feu tombe du ciel, pourquoi le vent souffle, enfin tout ça, pour les sons. Et je suis sûr que la poésie vient de ça. L'art pariétal, c'est quoi? C'est les premiers poèmes pour moi. Vraiment, quel est ce besoin de peindre? Et on sait maintenant que ceux qui peignaient, celles et ceux qui peignaient, parce qu'on ne sait toujours pas, mais s'entraîner, puisqu'il n'y a aucune trace de rature. Les scientifiques n'ont rien, c'était à main levée. Ça veut dire qu'il y a une science, il y avait un art, il y avait une dextérité. Donc ça veut dire qu'ils s'entraînaient. Mais ça veut dire que si vous vous entraîniez à ça, vous ne pouviez pas chasser, ni pêcher, ni cueillir. Donc on le faisait pour vous. Donc déjà, à l'aube de l'humanité, on avait compris qu'il fallait réserver une place pour ceux qui vont nous représenter ou représenter le monde.
Philippe Torreton, ce que vous dites sur la poésie comme recherche, enfin peut-être que je reformule mal, mais recherche d'une forme d'unité première avec la nature, presque qui précéderait l'individuation. Est-ce que Pauline Picot, ça rejoint, je crois, une notion que vous mettez quand même au cœur de la poésie, à savoir le décentrement, l'aventure poétique comme tentative de sortir de son propre regard et des habitudes qui caractérisent ce regard?
D'abord, avant de répondre, je voudrais juste dire que je suis très très touchée par ce que vient de dire Philippe Torreton. C'est vraiment magnifique et je me reconnais. Enfin voilà, ce geste, cette émotion me touche beaucoup. Et je repense juste à cette image de la voiture qui est toute décomposée. Je me demande si justement la poésie, c'est pas savoir comment la voiture fonctionne, l'avoir décomposée avec un professeur ou avec les sciences, tout ce qui peut expliquer, et puis en être malgré tout émerveillé, reprendre le volant et rouler sans savoir comment. Je pense que c'est ça, la poésie. Et l'émerveillement devant l'arc-en-ciel. C'est la même chose. Et pour répondre à votre question, je crois que oui, la poésie, c'est aussi se décentrer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, avec justement ce préjugé sur le lyrisme, la poésie, ce n'est pas aller de soi à soi. C'est, comme le disait Philippe justement tout à l'heure, aller vers l'autre ou aller vers soi par l'autre, si on veut. Donc effectivement, moi, ce que je cherche, ce n'est pas d'aller vers moi, c'est d'aller vers ce qu'il y a en moi de plantes, de chaises, de rues, de regard de l'autre, voilà.
Ce qui est très intéressant, Thomas Schlesser, c'est que j'ai l'impression que dans votre roman, l'idée de la poésie comme rencontre avec l'altérité est absolument centrale aussi.
Oui, elle est centrale parce que la poésie est toujours à la limite de la langue étrangère. En fait, on entend la langue française, on entend la langue italienne, on entend la langue anglaise, mais il y a ce léger décalage qui fait que, est-ce une alchimie du verbe, est-ce une sorte de prière un peu mystérieuse, il y a ce léger décentrement du langage qui fait qu'on est à la limite de la langue étrangère. Et par conséquent, l'altérité est intrinsèquement liée à la poésie. La poésie, en effet, est rencontre, la poésie est adresse. Je répète mon mot, la poésie est toujours d'une manière ou d'une autre un peu prière. Prière blasphématoire, par exemple. C'est Prévert qui dit « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y ». Et nous resterons sur la terre qui est quelquefois si jolie. Mais il y a quand même toujours quelque chose d'irréductiblement lié à la prière originelle. Pour autant, la poésie est aussi un outil absolument fondamental dans l'histoire d'affirmation de l'individualité. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Pauline Picot, mais je voudrais quand même y apporter une petite nuance historique. C'est parce qu'il y a eu des poètes et des poétesses, en particulier au moment de la Renaissance, que cette conquête politique essentielle qu'est la possibilité pour je de dire je, c'est grâce à la poésie que cela a été, en partie, que cela a été possible. C'était également le cas grâce aux artistes, aux scientifiques. Mais la poésie a joué un rôle énorme. Par exemple, dans la poésie féministe du XVIe siècle. Gaspara Stampa en Italie, Louise Labbé en France, plus tard, au début du XVIIe siècle, Lady Mary Ross en Angleterre. Des femmes qui ont pris la plume dans des mondes d'hommes pour dire qu'elles ont droit d'aimer comme elles aiment, qu'elles ont droit de souffrir comme elles souffrent, qu'elles ont droit de se révolter comme elles se révoltent. Donc,
et d'écrire.
De ce point de vue-là, pardon.
Philippe, et d'écrire, tout simplement, d'écrire, le droit
absolument,
d'écrire.
Absolument, ouais. D'écrire. Et à l'époque, la poésie était toujours chanter, ce qui fait qu'il fallait imaginer ces voix qui étaient en plus portées musicalement. Voilà.
Et ça pose la question aussi du lien entre est-ce que la poésie est une manière de sortir de soi ? Est-ce que la poésie est une manière d'affirmer son individualité ? Est-ce que finalement, on n'a pas l'impression, quand on lit une anthologie de la poésie, qu'on a à la fois affaire à une mosaïque de singularités, que chaque poète a des années-lumière du poète de la page d'après, et en même temps qu'il n'y a qu'un seul poète. Comme disait Philippe Solers, il disait « il n'y a qu'un seul écrivain ». Tout cela revient au même, c'est presque les échos d'une même parole.
Mais j'aime bien cette idée-là, parce qu'on nous fait croire qu'on change, qu'on évolue, et j'en suis absolument convaincu du contraire, moi. On ne change pas. Et ça m'est apparu en passant un an comme ça avec cette poésie française en remontant au 11e, 12e siècle jusqu'à des ateliers d'écriture faits il y a 15 jours. Et c'est un même cri humain, c'est un même besoin de dire quelque chose à quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure. On a les mêmes peurs, on a les mêmes angoisses, on rêve tout bêtement d'un monde un peu meilleur. On n'a pas envie que ça se batte en bas de chez nous. On n'a pas envie de ne plus être aimé, de ne plus être désiré, etc., etc. Ce qui nous différencie, c'est des petites choses matérielles, c'est rien du tout. On a évolué en marge sur des choses. Au lieu de tenir un bâton, on tient un iPhone. Et c'est tout. C'est rien, c'est ridicule comme changement. L'être humain est toujours le même. Mais et je crois donc qu'effectivement, que non seulement c'est un seul et même cri, homme, femme confondu, siècle mélangé, mais qu'en plus, c'est un outil exact d'apprentissage de l'être humain. C'est-à-dire que pour moi, c'est un matériau scientifique, la poésie. C'est aussi précieux que de découvrir une tombe mérovingienne ou un château enfoui. C'est aussi exact que ça. Il suffirait d'inventer un système de datation du carbone 14 et on pourrait se servir de la poésie comme un vrai chemin de connaissance de l'humanité, de l'être humain. Et moi, j'ai des visions comme ça un peu fantasmagoriques, mais je me dis que mon art, c'est le théâtre, et d'écrire aussi, mais chaque soir sur la planète, si on pouvait rassembler tout ce qui est dit par des comédiens et des comédiennes, tout ce qui est représenté à New York comme à Bali, à Pékin comme à Paris, et qu'on condenserait ça dans un seul livre, mais on aurait le livre des livres, qui aborderait tout. Donc, tous les soirs sur la Terre, des hommes et des femmes nous racontent l'aventure humaine.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est peut-être l'intuition d'un poème absolument sublime de Baudelaire, Les Phares, où il raconte l'histoire de tous les peintres, enfin il décrit tous les peintres, les grands peintres de l'histoire de l'art, un peu comme dans Les Yeux de Mona, et à la fin, il y a des strophes où ils disent « Ces peintres sont finalement tous le même artiste ».
Ces malédictions, pardon, ces blasphèmes, ces plaintes, ces extases, ces cris, ces pleurs, ces tédéum sont un écho redit par mille labyrinthes, c'est pour les cœurs mortels un divin opium. C'est un cri répété par mille sentinelles, un ordre renvoyé par mille porte-voix. C'est un phare allumé sur mille citadelles, un appel de chasseurs perdus dans les grands bois. Car c'est vraiment, Seigneur, le meilleur témoignage que nous puissions donner de notre dignité que cet ardent sanglot qui roule d'âge en âge et vient mourir au bord de votre éternité.
Philippe Torreton, vous veniez de nous lire du Baudelaire que nous allons aussi entendre chanter.
France Culture, sans préjugés, Nathan Devers.
Sur ta chevelure profonde, aux acres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
nous entendions Baudelaire chanter par, tout le monde l'aura je pense reconnu, Serge Gainsbourg. Puisque nous parlons de Baudelaire, Pauline Picot, je voulais aussi vous poser la question de parfois la mythologie, l'imaginaire, les clichés qui sont associés à la figure du poète. Le poète est-il, a-t-on trop souvent, tendance à se le représenter comme un homme cassé, comme un homme abîmé, comme s'il y avait une malédiction qui était immanente à son art?
Bon, vous avez dit comme un homme deux fois, alors je suis obligée de préciser comme un homme ou une
Bien
femme.
Sûr,
mais
vous
justement,
avez
effectivement, dans cet imaginaire, on pense effectivement peut-être davantage à un homme brisé. Effectivement, historiquement, et voilà, le poète maudit et la figure du poète du 19e, c'est ça, c'est cet homme qui puise dans ses souffrances et qui va venir aussi se mettre au diapason de la nature, du monde et de ses contemporains. C'est vrai que moi, je suis assez vigilante, et aussi dans mes ateliers de transmission, dans mes rencontres, dans mes lectures, à évoquer cette puissance de la joie, et pas comme une injonction, parce qu'on l'entend beaucoup aussi, cette injonction à la joie, mais vraiment cette puissance d'émerveillement, de joie, de gratitude. Là, je rejoins aussi ce que disait Thomas Schlesser sur cette prière, peut-être païenne, évidemment, mais je crois qu'il y a d'autres énergies que la souffrance, il faut absolument le dire. La poésie, ce n'est pas qu'une marmite remuée toujours sur le même feu de ses propres souffrances. C'est aussi venir chercher l'étincelle en soi qui va venir allumer le feu de l'autre. Donc il faut se frotter à d'autres énergies que cette souffrance.
Alors cette idée que la poésie doit peut-être s'arracher à l'emprise de la souffrance, et je fais juste une parenthèse, quand je disais la mythologie comme un homme, c'est aussi parce qu'on a une mythologie parfois patriarcale, c'était un peu bien sûr volontaire. Mais Thomas Schlesser, est-ce que c'est pas l'idée aussi directrice de votre livre, à savoir que dans ce roman, la poésie, je sais pas si le mot de développement personnel serait le bon, mais je pense qu'on peut l'employer au sens vraiment positif, apporte du bonheur au personnage du jardinier, ou en tout cas vient répondre à ses angoisses existentielles. Est-ce que je me trompe ?
Alors, vous ne vous trompez pas du tout, cher Nathan. Vous identifiez bien le problème, c'est toujours des problèmes de terminologie. C'est que si on dit développement personnel, tout le public de France Culture va se jeter sur le chat du jardinier en disant que c'est un livre feel-good épouvantable.
Ce serait une erreur.
et je pense que ce serait une grosse erreur, puisque c'est un livre qui est traversé, un peu comme chez Baudelaire, par une oscillation entre spleen et idéal. Et je parlerai de densité existentielle. Voilà, d'intensité ou de densité existentielle. La poésie permet de raviver des émotions et une mémoire, c'est-à-dire de donner de la profondeur à l'être humain. Et même de donner une profondeur historique. Ça permet de rappeler les joies, les peines, les aspirations et les déceptions de l'humanité entière. Donc, être traversé par les poètes, c'est ça. C'est s'amplifier soi-même. Et de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire quelque chose, c'est que c'est totalement lié aussi à l'amour, une forme d'amour universel, d'amour pour son prochain. Vous savez, il y a cette saillie poétique que j'adore de Robert Desnos dans « J'ai tant rêvé de toi », où il dit j'ai tant rêvé de toi que j'ai perdu ta réalité, j'ai tant parlé, marché, couché avec ton fantôme qui ne me reste plus peut-être et pourtant qu'être fantôme parmi les fantômes et plus ombre 100 fois que l'ombre qui marche et marchera éternellement sur le cadran solaire de ta vie. Ça, c'est de l'élan joyeux, aimant, puissant qui vient, on le répète, à la fois de l'être et du fond des âges.
Cet amour-là qui aimante la poésie, il peut avoir cette part lumineuse, solaire, il peut aussi être vécu comme une épreuve de confrontation avec la réalité dans ses aspects les plus terribles. Je crois que c'est l'objet, on peut le dire comme ça, de votre livre « Veillée », Philippe Torreton, oui, qui part d'une immersion de 3 jours et 3 nuits avec le SAMU social. Et vous écrivez au début « J'ai commencé à rédiger, à écrire sur cette expérience, mais les phrases sentaient la phrase. Rien n'était à la hauteur des chocs éprouvés, la littérature se faisait indécente, et donc vous avez eu le besoin de chercher d'autres mots, des mots qui viennent sans prévenir, qui ne prennent pas le temps d'enfiler un pantalon pour être présentables, des mots comme mes yeux face à la misère de ces 3 nuits qui se foutent d'être compris. Est-ce que l'engagement politique là nécessitait de passer vers une nouvelle stylistique, une poésie presque brutale ?
Je l'ai ressenti en tout cas, profondément, c'est-à-dire que il y avait un fossé entre ce que j'avais vécu, ressenti, et et la façon dont je commençais à le rédiger, à le mettre sur le papier, enfin, travailler à l'ordi, mais... Et je m'ennuyais, en fait, à me relire. Je me disais, il faut trouver un autre chemin. Et fort de cette année passée, puis plein d'autres, avec la poésie, mais dans la rédaction de mon anthologie, mais en fait, je m'aperçois que depuis l'enfance, je ne lis que ça, en fait, réellement, que de la poésie. Parce que ça, on peut prendre ça, et puis ça peut durer 10 minutes, comme ça peut durer 1 heure, et c'est tout de suite, et on est plongé dans l'exactitude. Parfois, un roman, il faut pénétrer dans le roman, il faut... Nanana, c'est long, avant d'avoir une première sensation, d'éprouver un premier frisson, parfois, voilà. La poésie, non, c'est tout de suite, et maintenant. Et donc... je me suis dit, voilà, il faut donner une forme brève avec des rejets à la ligne, plus que des retours à la ligne, d'être dans le percussif comme ça tout le temps et se dire, tant pis si vous êtes un peu paumé au début. Moi, je l'étais de toute façon. On m'a dit des noms, on m'a dit des choses, on m'a dit des noms de rue, on m'a dit de regarder et mes yeux voyaient rien et tout ça. J'étais affolé. Vous le serez comme moi. Mais la nature est ainsi faite que c'est ce que je crois, moi, être le style. C'est-à-dire qu'un style, ça ne s'envisage pas. Ça se constate à la fin, quand on a fini. On dit, oui, j'ai écrit comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et il n'y a rien de pire que de se dire, mon style, ça va être de... Non, c'est comme quand on est comédien. Quel comédien je suis, je n'en sais fichtre rien. Et ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne veut rien dire. Je suis un comédien tchékovien ou shakespearien. C'est d'un ennui profond.
Alors, Pauline Picot, je ne sais pas comment vous décririez votre style, mais j'ai l'impression qu'il y a dans le rapport entre votre travail et la description, le rapport au monde extérieur, à la fois une dimension de miroir, essayer de décrire le réel dans ce qu'il peut avoir de plus éprouvant, et de fenêtre, offrir une évasion. Je lis quelques vers. Je viens vous annoncer qu'il reste 7 poissons dans la mer, 19 euros pour la fin du mois, 103 maisons en feu dans le paysage, mais qu'il reste également 8000 combinaisons de nos corps. Les possibilités sont donc encore relativement ouvertes. Est-ce que c'est ça, ce que vous essayez de faire ouvrir les possibilités à travers la poésie ?
Oui, je crois que j'aime beaucoup ces deux images du miroir et de la fenêtre. Et il me semble qu'entre les deux, il y a la porosité, il y a la peau. Enfin, il y a quelque chose qui vient résonner, qui est effectivement à la fois dur et compact, qui réfléchit, qui renvoie l'image, et quelque chose qui peut s'ouvrir. Donc, ce serait entre le miroir et la fenêtre exactement. Dans cette porosité, dans cette peau que l'on peut traverser. Donc oui, je crois que la poésie, c'est ouvrir. Ouvrir à l'élan vital, ouvrir à l'autre, effectivement, ce n'est jamais fermé. Et c'est, comme le dit Philippe Torreton, c'est ouvert tout de suite, dès le premier mot, dès le premier vers. Et ce qui me plaît, c'est que la poésie peut aussi ne pas plaire, rejeter son lecteur, sa lectrice. On arrive dans le mot. Est-ce que c'est ouvert, en tout cas? La porte est ouverte. Est-ce qu'on entre? On peut ne pas entrer. Voilà.
C'est intéressant parce que cette question-là, d'entrer quelque part avec la poésie. Thomas Schlesser, tout à l'heure, vous disiez que la poésie avait été aussi une dimension d'exaltation de l'individualité. Est-ce qu'il faudrait tordre le cou à un troisième préjugé, le poète comme replié dans sa tour d'ivoire, séparé du monde, désengagé? Lamartine, dont nous parlions, au moment des émeutes de 48, en juin, les gens lui reprochaient d'être un poète.
Non mais bien sûr, non mais c'est un préjugé désespérant, puisqu'il suffit de... D'ailleurs, les professeurs, en règle générale, font très bien le boulot là-dessus. Il suffit de décrire un peu la biographie de tous les auteurs, toutes les autrices du passé, pour constater que il y a des aventuriers, il y a des prisonniers, il y a des fous, il y a des résistants, il y a même des gens qui sont certainement très condamnables. En tout cas, il y a des vies, il y a des corps, voilà. Et en effet, ça palpite. Le corps du poète, il palpite, il souffre, il a mal aux dents, il a du désir. Ce sont des corps qui traversent l'histoire. Voyez, par exemple, le poème préféré de Nelson Mandela était un poème qui s'appelle Invictus de William Ernst Henley. Et William Ernst Henley, c'est un poète anglais du 19e siècle, qui avait une tuberculose osseuse. C'est un type qui s'est fait amputer d'une jambe quand il était adolescent, puis amputer d'un pied, et qui a écrit ces vers extraordinaires. « Si étroit soit le chemin, qu'on me juge, qu'on me blâme, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Ces vers qui étaient dans la cellule de Nelson Mandela, qui lui permettaient de tenir. De ce point de vue-là, évidemment, la poésie est résistance des corps qui traversent l'histoire.
Philippe Torreton, est-ce que vous partagez cette idée-là que la poésie serait presque... On pourrait se dire que dans les démocraties comme les nôtres, il peut y avoir une tendance à une intellectualisation de la poésie, à une poésie qui va devenir de plus en plus élitiste, contrairement à d'autres pays où la réalité peut être éprouvée de façon plus brutale. Mais est-ce que la poésie, finalement, est synonyme d'émancipation ?
Ah, moi, je crois, il y a parmi les nombreux paradoxes de la poésie qu'on a abordés dans cette émission passionnante, je trouve qu'il y en a un autre, qui est que c'est à la fois l'art le plus populaire et le plus élitiste. Je suis sûr que si on faisait un micro-trottoir, tout le monde est capable de réciter un petit bout de poème, ou un vers, quelques mots, comme ça. Parce qu'on a étudié, parce qu'on a lu, parce que ça plaît, tout simplement, ça plaît à l'humanité entière. Et en revanche, c'est peut-être l'art qui a le plus d'a priori, d'élitisme, de pas fait pour moi. C'est effectivement le poète dans sa tour d'ivoire. Moi, j'ai l'impression aussi que, pas le 19e siècle, mais ce qu'on en a retenu ou ce qu'on a interprété du 19e siècle a fait beaucoup de mal à beaucoup d'auteurs, notamment Shakespeare, cet a priori de romantisme, je le déteste. Enfin, ce qu'on croit en comprendre, pour moi, et c'est beaucoup plus, comme le disait Thomas, c'est beaucoup plus puissant que ça. La vie des poètes est extraordinaire, ou extraordinairement banale aussi. Il y a de la médiocrité aussi. Le poète a le droit d'être médiocre, a le droit d'être un petit bonhomme, une petite bonne femme. C'est pas grave. C'est un chemin d'insatisfaction, c'est un constat d'insatisfaction, plus qu'une douleur. Il y en a qui souffrent réellement, il y en a qui sont pendus, qui sont... Voilà. Mais c'est plus se dire, mais je n'arrive pas à me satisfaire du monde comme il va. Et alors, et je vous le dis, pardon, avec mes mots à moi, avec mes images qui me traversent comme ça. Et c'est plus ça qu'une souffrance, même s'il peut y en avoir. Mais je crois que, effectivement, il m'est arrivé, quand j'ai publié ce livre il y a longtemps, Mémé, j'avais mis en exergue un petit quatrain de pardon, je suis trop long, mais un petit quatrain de Gérard Lenormand. Dites-moi ce qui m'entraîne, dites-moi ce qui m'attend. Où s'en vont ceux que l'on aime, dites-moi d'où vient le vent. Et je trouvais ça très beau. Et beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi avoir mis Gérard Lenormand ? Voilà, tout simplement, tout est là, je crois.
Nous arrivons malheureusement au terme de cette émission que j'ai trouvée passionnante. Et Pauline Picot, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'émission, c'est quand vous avez dit « là, je suis ému par ce que vient de dire Philippe Torreton ». Je crois que c'est ça peut-être aussi la coexistence poétique. Merci beaucoup à Aline Biette qui a préparé cette émission. C'était formidable, on a passé la semaine à s'appeler pour se parler de poésie, etc. Merci beaucoup à Souad Boukorsa qui l'a réalisé et mise en onde. Et à très bientôt.